Bonjour Fabrice, et puis aujourd'hui dans 2000 ans d'histoire, 1946-1949, il y a 60 ans, une guerre civile oubliée, la guerre civile en Grèce. En ces lieux qui sont mes domaines, ne donne pas à mes gens l'esprit de guerre civile, la colère contre les gens de leur race. Échine. D'histoire. Il y a 60 ans, dans la patrie d'Échille, se déclenchait une des guerres civiles les plus affreuses du XXe siècle. Deux ans à peine après avoir souffert plus que beaucoup d'autres de la Deuxième Guerre mondiale, les Grecs subissaient une nouvelle épreuve, d'autant plus tragique qu'elle a vu s'affronter des hommes et des femmes qui avaient lutté ensemble contre le nazisme. Mais cette fois-ci, l'enjeu n'était plus le même. Pour les communistes grecs, il ne s'agissait plus de libérer leur pays, mais d'y conquérir le pouvoir et de l'arracher aux forces du gouvernement d'Athènes, soutenu par les États-Unis. C'est ainsi que cette guerre civile est devenue le premier conflit armé de la guerre froide, dans un pays déjà ravagé pendant 3 ans par les Allemands qui avaient envahi la Grèce en avril 1941.
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt.
En raison de la menace constituée par la présence de troupes britanniques sur le territoire grec, l'armée allemande est passée ce matin à l'aube à la contre-attaque. Les frontières grecques et serbes ont été franchies en de nombreux points. Ici Radio Athènes, encore libre. L'envahisseur rentre prudemment. La ville est déserte. Les maisons sont fermées. Bientôt, Radio Athènes sera allemande.
Joël Dallègre, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes historienne, auteur d'un livre sur la Grèce qui a été publié chez l'Harmattan. Alors, quand on parle de la Grèce, on pense toujours à son histoire pendant l'Antiquité, comme si elle s'était soudain arrêtée il y a 2000 ans. Et on connaît mal son histoire contemporaine. C'est ce que vous rappelez, justement, puisque votre livre, c'est La Grèce depuis 1940, publié chez l'Harmattan. C'est-à-dire depuis le début, enfin, depuis qu'ont commencé deux événements tragiques pour l'histoire de la Grèce. La Deuxième Guerre mondiale et l'occupation allemande d'une part, et d'autre part une guerre civile qui a suivi et qui a été terrible, mais les deux sont liés. Sans l'occupation allemande, sans l'invasion allemande, sans la Deuxième Guerre mondiale, il n'y aurait pas eu la guerre civile qui a suivi, Joël Dallègre.
Vraisemblablement pas. Je veux dire, c'est difficile d'en faire l'histoire. Les germes d'une division étaient déjà là depuis le début du XXe siècle, mais je ne pense pas que la division aurait pris, je dirais, des proportions telles que les deux parties en arrivent à s'entretuer sauvagement, si effectivement la guerre n'était pas venue pour exacerber à la fois les douleurs, les passions et tous les problèmes.
Et puis alors, d'autant plus que cette occupation allemande, pas seulement allemande, hein, la Grèce a été aussi occupée par deux des alliés de l'Allemagne, qui étaient l'Italie et la Bulgarie, mais ça a été terrible, ça s'est traduit par un véritable pillage. La Grèce a peut-être plus souffert que d'autres pays occupés, Joël Dallègre, comme la France par exemple.
La Grèce a en gros, en chiffres, souffert à peu près autant que les pays d'Europe orientale, mais plus effectivement que des pays comme la France. Elle a souffert à peu près des mêmes choses que tout le monde, c'est-à-dire le pillage économique. Par contre, elle a souffert beaucoup plus de la faim, puisqu'en fait, dans l'hiver 41-42 jusqu'au printemps de 42, il y a à peu près, là aussi c'est difficile à estimer, mais enfin en gros entre 250 000 et 300 000 personnes qui sont mortes de faim, strictement de faim, dans les rues d'Athènes, avec toutes les images horribles des corps décharnés qu'on ramasse dans des charrettes, etc. Et si on compte qu'ensuite, il y a encore, la faim est restée, je veux dire sur l'ensemble de la guerre, il y a au moins à peu près entre 300 et 350 000 personnes qui sont mortes de faim en Grèce.
Sans compter ce qu'ont connu aussi d'autres pays occupés, sans compter les déportations. Là aussi, vous nous rappelez que il y a eu énormément de déportés, une communauté juive très importante aussi qui a beaucoup souffert de l'occupation allemande.
Oui, la communauté juive était surtout très importante à Salonique. Comme elle était concentrée dans la ville de Salonique, ça a été finalement plus simple pour les Allemands, je dirais, de l'isoler, etc. Et donc, elle a quasiment totalement disparu.
Alors, la rigueur de cette occupation explique, bien entendu, à favoriser de cette manière une résistance qui apparaît très vite. Alors, plutôt des résistances. Et c'est là, d'ailleurs, que déjà, il va y avoir le germe d'une guerre civile, parce que c'est entre d'anciens résistants, le plus souvent, que la guerre civile qui suivra aura lieu. Et avec un mouvement qui domine tous les autres, un mouvement de résistance, qui est un mouvement de résistance communiste. C'est ce qu'on appelle, je crois, l'EAM, le Front National de Libération.
Disons que c'est un mouvement de résistance qui est créé à l'initiative des communistes, dont la majorité des dirigeants sont communistes, mais ça n'est pas une résistance communiste, elle ne se présente jamais comme ça, et les 9/10 de ses membres ne sont pas communistes, en fait.
Donc, c'est l'initiative des communistes.
C'est l'initiative, mais pendant toute la période de l'occupation allemande, jamais le communisme n'est mis en avant.
EAM, ça veut dire Front National de Libération. Il y avait aussi une branche armée qui s'appelait l'ELAS, hein, je crois, Armée Populaire de Libération. Alors, l'EAM, ELAS, n'est pas le seul mouvement de résistance. Il y en a eu d'autres, je crois, Joël Dalek, qui n'était pas communiste, mais plutôt anticommuniste.
Alors, il y a aucun autre mouvement ne comporte des communistes. Par contre, il y a beaucoup d'autres petits mouvements de résistance. Et à l'origine, c'est-à-dire en gros à la fin de 1941, quand les mouvements se sont créés, aucun n'était royaliste. C'est-à-dire pour le gouvernement en place qui venait de perdre finalement justement son pouvoir.
Oui, il faut rappeler que la Grèce, c'était une monarchie, que le roi George II, dès le début de l'occupation, est parti à Londres avec un gouvernement qui était celui de Georges Papandréou, je crois, qui était installé, enfin pas tout de suite à Londres, il était au Caire, il était en Crète, il était au Caire, puis ensuite il s'est installé à Londres. George II, d'ailleurs, que les Grecs n'appréciaient pas trop, je crois.
Pas le moins du monde, si je puis dire. Il était déjà, enfin, la monarchie depuis 1917 avait eu bien des misères en Grèce. Elle avait déjà, les rois étaient partis 3 fois en exil. Le roi George II était revenu d'un long exil en 1935 dans des conditions assez contestables. Et en plus, quelques mois après, il avait installé une dictature. Personne n'était vraiment mécontent de le voir repartir. Ceci dit, il n'est pas parti avec Georges Papandréou comme premier ministre. Georges Papandréou n'a été mis comme premier ministre que vraiment quelques mois avant la libération.
Alors le père d'Andréas, hein, faut pas confondre les Papandréou. Alors ces mouvements de résistance très vite, bon, d'abord ils sont très actifs, très efficaces contre les Allemands, mais aussi les Italiens et les Bulgares. Mais très vite, à partir de 43, quand la guerre tourne mal pour les puissances de l'Axe, là ils pensent déjà à autre chose. Ils pensent à l'après-guerre. La guerre n'est pas finie, mais le problème est de savoir au fond quel pouvoir se mettra en Grèce une fois que les Allemands seront partis. Et il y a eu déjà presque une première guerre civile à l'intérieur même des mouvements de résistance grecs.
Je crois que dans tous les pays, la question de l'après-guerre s'est posée assez vite. Maintenant, c'est vrai que la résistance grecque a été très efficace. En gros, à partir de la fin 43, elle contrôle les 3/4 du pays. Les Allemands ont cessé de mettre les pieds dans la moindre zone montagneuse, sauf le temps de faire un raid et de repartir. Et en même temps, elle comporte l'ELAS, l'armée de l'EAM, en 44, compte quand même 70 000 hommes en armes en permanence, ce qui veut dire que c'est une armée, et qu'il y a derrière au moins 400 ou 500 000 civils qui sont là pour équiper, pour nourrir, pour soigner, enfin pour faire tout ce qu'il faut pour qu'une armée fonctionne.
Alors il y a quelqu'un que ça préoccupe beaucoup, c'est Churchill en Angleterre. L'Angleterre, c'est vraiment le principal allié, soutien de la Grèce, est très présente, elle était avant la guerre très présente, elle veut y revenir, très présente en Grèce. Et Churchill donc, qui a beaucoup d'intérêt, dont l'Angleterre a beaucoup d'intérêt en Grèce, et qui craint bien sûr que le vide laissé par les Allemands se traduise par une prise du pouvoir, par les âmes, hélas, par ce mouvement dirigé par les communistes. Et il envoie, Churchill, un corps expéditionnaire britannique à Athènes en octobre 1944.
If you've seen these pictures before, you'll certainly remember them.
Si vous avez déjà vu ces images, vous vous souviendrez sûrement que les Grecs ont accueilli nos troupes avec un enthousiasme jamais vu pendant cette guerre. Nous ne voulons de la Grèce que son amitié pour maintenir la loi et l'ordre afin qu'il y ait des élections libres. La Grande-Bretagne n'est pas là pour occuper la Grèce, mais pour aider ce pays ravagé à se redresser.
Alors lorsque l'armée britannique Joël d'Allègre arrive à Athènes en octobre 44, faut rappeler que la guerre mondiale n'est pas finie, encore, c'est pas pour chasser les Allemands, ils sont déjà partis, ils sont partis quelques jours avant.
Oui, les Allemands sont partis parce qu'en fait les Russes arrivaient et qu'ils avaient peur de rester coincés dans le sud de la Grèce. Donc même sans la présence britannique, ils seraient partis. Et même on pense que les Anglais ont fait exprès de les laisser partir quelques jours avant, de manière à ce que ça se passe bien, sans combat, et que ça économise leurs propres forces.
Alors qu'est-ce qu'ils viennent faire justement? On a entendu dans cette archive maintenir l'ordre.
En fait, Churchill est bien persuadé que les Amélas, ce n'est que des communistes, que les communistes n'ont qu'un rêve, c'est prendre le pouvoir, et qu'il n'y a aucune autre solution à part retour du roi, même si personne ne l'aime et même s'il n'est pas très apprécié, parce que finalement il a un grand mépris pour tous les autres hommes politiques grecs et qu'il est bien persuadé que tous les autres sont tellement incapables que c'est le roi ou le communisme. Et donc entre un roi même peu présentable et le communisme, il a choisi.
Alors il a choisi, mais il a pris ses précautions. On peut se douter, Joël d'Allègre, que le fait de venir en Grèce et d'avoir risqué à affronter justement les communistes grecs, il y a quelqu'un qui pourrait s'en offusquer, c'est Staline, bien sûr, qui soutient les communistes du monde entier. Et alors là, il y a une réunion dont vous parlez peu, mais qui a été très importante, je crois. Il y a une réunion qui se produit quelques jours avant l'arrivée des Anglais à Athènes, entre Churchill et Staline, ultra secrète, et les deux hommes se partagent les Balkans. Et Staline dit à Churchill, il se partage tout simplement toute la région des Balkans, et Staline dit à Churchill, écoutez, la Grèce, c'est à vous. C'est ça, en gros, qui s'est passé.
C'est Churchill qui raconte ça gentiment dans ses mémoires. Il est allé à Moscou et ils se sont mis d'accord en écrivant des chiffres sur la nappe, parce que aucun des deux ne connaît la langue de l'autre, pour savoir qui serait majoritaire dans tel et tel pays d'Europe de l'Est. Et comme Staline préfère la Pologne et que Churchill s'intéresse surtout à la Grèce, eh bien chacun a bradé l'autre. Donc on a fait 90-10, hein, 90% d'influence soviétique en Pologne et l'inverse pour la Grèce.
Sans parler du fait que la Yougoslavie, la Roumanie, l'Albanie, la Bulgarie, tout ça a été donné à Staline par Churchill. Hein, c'est quand même assez extraordinaire. Et du coup, Staline ne soutient pas du tout ce premier soulèvement des communistes grecs en décembre 1944, quand l'Hellas tente une première fois de s'emparer du pouvoir à Athènes, sous les yeux des journalistes de la BBC.
Hello BBC, this is Douglas Farley speaking to you from Athens.
Bonjour la BBC, je vous parle d'Athènes, place de la Constitution au centre de la ville. En ce moment même, il y a une violente bataille de rue. Je laisse le micro ouvert pour que vous entendiez. Il est 4 heures le 7 décembre.
Είμαι που ένας αντάρτης και στα όρη τριγυρνώ και για την ελευθεριά μας με τον θάνατο αψηφώ.
C'est Petros Pandis, moi le partisan de l'Ella, c'est une chanson que vous connaissez, je vous ai vu la fredonner dans le studio Joël d'Allègre pendant qu'elle passait.
La Grèce a un très très riche répertoire musical et l'Ella avait aussi un très riche répertoire musical et une partie de ses chants ont été enregistrés en 1974 à la chute des colonels quand enfin on a pu le faire. Et Petros Pandis est effectivement un des plus importants chanteurs qui les a enregistrés. Et ça, c'est une des chansons les plus connues, je dirais, de Lelas, où en fait, il nous explique simplement que pour la liberté, il est prêt à tout, qu'il ne craint ni la mort, ni la hache, ni la pendaison, ni rien.
C'était une chanson composée, vous avez dit qu'elle était enregistrée en 74, oui. Mais composée pendant, bien sûr, pendant la guerre,
à partir
par
Lelas, de 42.
Par les partisans,
oui, oui.
Lelas,
oui,
c'est son titre.
Vous savez bien qu'à partir de 49, il n'est plus question de chanter la moindre note ayant un rapport avec Lelas, sous peine de graves difficultés familiales, donc...
Alors 49, c'est la fin de la guerre civile dont nous allons parler justement. La première tentative, on l'a entendu, ça se passe en 1944, ça dure peu de temps, hein. Ça dure à peine un peu plus d'un mois, ça a été très violent, hein. C'est une première tentative de prise du pouvoir par les communistes, en tout cas par Lelas, Joël Dallègre.
Alors... On ne sait pas exactement si c'est vraiment une tentative de prendre le pouvoir ou si c'est simplement une volonté de s'affirmer pour avoir une part au pouvoir. Car entre octobre où Lelas accepte d'accueillir comme tout le monde l'Angleterre avec joie et décembre, en l'espace d'un mois et demi, il y a une masse de déceptions. On s'aperçoit que les collaborateurs ne sont pas punis, que les résistants par contre ne sont pas récompensés, que les ministres de Lelas sont évacués du ministère et que donc il n'y a rien pour ceux qui sont quand même les résistants. Et donc, en fait, on ne sait pas parce que Lelas n'a mis que 20 000 hommes, en gros, dans Athènes, alors qu'elle avait 70 000 hommes disponibles. Donc, c'est un peu étrange. Mais toujours est-il qu'effectivement, il y a pendant un mois des combats de rue sauvages dans Athènes. L'Angleterre a quand même amené ses avions. Donc, Athènes est bombardée alors que les Allemands ne l'avaient pas bombardée au nom des souvenirs classiques de l'acropole et de la culture classique allemande. Il y a des quartiers entiers d'Athènes qui sont détruits. Il y a des barricades. Et il y a autant de morts en un mois dans Athènes qu'il y en a eu pendant toute la guerre contre l'Italie et l'Allemagne.
Et une répression qui s'est poursuivie, mais alors pas du tout. Effectivement, vous évoquez l'épuration. L'épuration a été extrêmement faible. En Grèce, il y a eu quelques collaborateurs, mais alors vraiment, ils ont échappé à l'épuration. Et on était plus sévère avec les communistes qui avaient tenté de prendre le pouvoir en 1900, décembre 44, qu'avec les collaborateurs des années qui ont précédé. Il y a un autre problème aussi qui se pose, c'est toujours ce retour du roi, un plébiscite qui a lieu en septembre 1945 et qui permet au roi de Georges II de revenir. Et c'est juste après donc que 46 pardon. Et c'est juste après que les communistes, enfin que Lelas se transforme, ou plutôt qu'est créée une armée démocratique, une armée en fait de Lelas qui s'appelle l'AD, hein, qui est créée dans la perspective d'une troisième tentative de coup de force, Joël Dallègre.
En fait, la question du retour du roi s'est posée pratiquement pas le lendemain de son départ, mais presque, car effectivement, à l'origine, tous les mouvements de résistance disaient il faut un plébiscite avant son retour. Et comme en fait tout le monde était persuadé, y compris Churchill, que si le plébiscite était honnête, il serait contre le roi, on voulait qu'il revienne d'abord. Bon, et finalement la question a tardé jusqu'à septembre 46. Et quand le plébiscite a bien eu lieu avant le retour du roi, en même temps tout le monde est à peu près certain, y compris les observateurs étrangers, qu'il a été truqué. Mais plébiscite, il y a eu. Bon, et comme effectivement rien ne s'est arrangé par là, les conflits, puisqu'en fait il y a quand même des milliers de gens qui sont assassinés au coin d'un chemin de campagne entre 45 et 46. Donc c'est vrai que Lelas ou ce qu'il en reste créent des groupements d'autodéfense, et finalement ces groupements d'autodéfense se transforment en une vraie armée et une vraie guerre.
Commandé par un général, enfin, je ne sais pas s'il était vraiment général, mais Marcos, hein, qui s'est rendu célèbre à ce moment-là, et qui se lance dans une nouvelle, dernière tentative de coup de force, une guerre contre les forces gouvernementales. Cette fois-ci, Staline laisse faire. Hein. La guerre est finie, la Deuxième Guerre mondiale est finie, et il n'est pas fâché de voir ses anciens alliés américains et anglais se dépatouiller en Grèce et avoir un certain nombre de difficultés. Et au début, cette guerre entreprise par cette armée démocratique de Marcos, elle tourne à l'avantage des communistes, Joël Dallègre. La première année est plutôt bonne pour eux.
Oui, Staline laisse faire parce qu'il n'a pas envie du tout, il respecte son accord avec Churchill, en même temps il est très content que ça se passe, parce que des ennuis dans le camp d'en face, ça l'arrange. Maintenant, c'est vrai que la première année, c'est encore l'Angleterre qui s'occupe d'aider le gouvernement. L'Angleterre est assez épuisée, n'a plus beaucoup de ressources, et l'armée officielle qui n'est pas très sûr, car en définitive, il y a toute une série de jeunes recrues dans l'armée officielle qui sont des gens qui avaient été aussi, dont la famille avait été résistant. Et l'armée officielle ne sait pas, pas plus que les Allemands, comment s'adresser à une guerre de guérilla. Et donc, c'est vrai que la première année, les LAS, enfin, ce qu'il en reste dans la version AD, a beaucoup de soutien dans l'opinion publique. Elle a beaucoup de soutien auprès des syndicats britanniques qui disent à leur gouvernement que taper sur des résistants, c'est quand même quelque chose d'abominable. Et ce n'est que quand, en fait, les États-Unis vont prendre le relais de l'Angleterre qui y renonce, que là, bien sûr, le poids économique américain va jouer.
Effectivement, les Anglais ne sont plus en mesure, à cette époque-là, à cause de leurs propres problèmes internes, d'aider suffisamment le gouvernement d'Athènes. Et c'est les États-Unis, ce sont les États-Unis qui prennent le relais quand justement le président des États-Unis demande au Congrès de voter une aide à la Grèce. On écoute Harry Truman le 12 mars 1947.
Members of the Congress of the United States. The United States has received from the Greek government an urgent appeal for.
Les États-Unis ont reçu du gouvernement grec une demande urgente d'aide financière et économique. Le gouvernement britannique, qui a aidé la Grèce, ne peut plus assurer cette aide. Cependant, l'armée grecque est faible et mal équipée. Elle a besoin d'aide pour restaurer partout l'autorité gouvernementale. Si la Grèce devait tomber sous le contrôle d'une minorité armée, elle entraînerait sa voisine la Turquie. Confusion et désordre se propageraient dans tout le Moyen-Orient.
Confusion and disorder might well spread throughout the entire Middle East.
Alors c'était Truman le 12 mars 1947 devant le Congrès des États-Unis, un discours très important, pas seulement pour les États-Unis ou pour la Grèce à laquelle les Américains vont apporter une aide, mais même pour le monde, pour l'histoire du XXe siècle, car c'est au fond le début véritablement de la guerre froide, Joël Dallaigue.
Oui, c'est le discours qu'on présente classiquement comme étant celui qui annonce en fait le début de la politique d'endiguement, l'endiguement du communisme, etc. Donc le début de la guerre froide, et c'est vrai qu'en général on oublie complètement que le premier cas qui est cité dans le discours pour mettre ça en route, c'est la Turquie et la Grèce. Mais c'est vrai que le gouvernement grec de l'autre côté, et l'Angleterre aussi, avait beaucoup beaucoup insisté auprès de Truman en gonflant le danger communiste pour avoir ses crédits, parce que le gouvernement grec était bien conscient que c'était, il jouait sa vie et son existence.
Alors cette aide n'est pas à proprement parler militaire, même si je crois qu'il y a eu une présence de la flotte américaine justement dans l'ouest du bassin dans l'est du bassin méditerranéen, elle est surtout matérielle, elle va apporter une aide considérable à l'armée gouvernementale dans une guerre qui a été d'une violence absolument insensée. Quand on vous lit, Joël Dallaigue, c'est peut-être le cas de toutes les guerres civiles, mais là, la férocité des combats, c'était pas forcément toujours des combats, c'était parfois des villages qu'on rasait, qu'on détruisait, a été terrible.
Et encore, je crois que j'ai été assez douce dans mes descriptions parce que je suis pas très portée sur les horreurs de la guerre. Mais les États-Unis, effectivement, sur le plan humain, je crois, n'ont connu qu'une victime, qui est un pilote qui a eu un problème avec son avion. Par contre, c'est une aide de matériel énorme qui gonfle d'année en année et qui fait que la dernière année, il y a à peine 20 000 soldats, dont des femmes et des enfants, dans l'armée démocratique, et il y en a 230 000 équipés à l'américaine en face. Ils ont amené des avions, des transports, du napalm la dernière année.
La première fois qu'on utilisait du napalm dans l'histoire.
Donc c'est vrai que c'est énorme. Et pour ce qui est de la sauvagerie des combats, il n'y a aucun doute non plus. Personne ne s'encombre, et surtout pas d'ailleurs l'armée démocratique, de prisonniers dont elle ne saurait pas trop quoi faire. En plus, le napalm, c'est pas voilà, et les bombardements non plus. Et puis, c'est vrai que pour essayer d'assécher complètement la guérilla, le gouvernement, sur conseil américain, a décidé de détruire tous les villages par lesquels ils passaient en montagne. Donc, on détruit exprès, volontairement, les toits, les maisons, on tue les troupeaux, et on déménage aussi. Il y a quand même près de 800 000 personnes, et la Grèce de 1940 avait un peu plus de 7 millions d'habitants, donc c'est énorme. Il y a 800 000 personnes qui sont obligatoirement déménagées par l'armée pour quitter les campagnes et aller en ville, de manière à ce que dans les campagnes, il n'y ait plus personne pour soutenir la guérilla.
La Grèce demeure le théâtre d'une sanglante guérilla. L'armée gouvernementale grecque, dans la région qui avoisine la frontière albanaise, accentue son offensive contre les groupes du général Marcos. Dans la région de Castagnani, récemment libérée, les paysans, hier chassés de leur foyer par la bataille, regagnent leur toit d'où le fer et le feu se sont maintenant écartés. Plus avant, dans la direction de la frontière d'Albanie, les combats continuent. L'armée grecque repousse peu à peu les partisans de Marcos vers leur base frontalière. Terre de lumière, naguère seulement dédiée aux artistes, la Grèce est aujourd'hui un champ de bataille. Un champ de bataille sur lequel le monde a les yeux fixés.
C'était une archive pâtée de 1948. À ce moment-là, d'ailleurs, pratiquement le sort de l'armée de Marcos, des communistes, est réglé. On est à la fin du conflit. Il se trouve plus que dans les montagnes. C'est d'ailleurs dans les montagnes que va se dérouler le dernier acte de cette guerre. Joël Dalleck, c'est la prise du Gramos, en 1949, en août 49.
Oui, c'est le mont qui est à la frontière de la Grèce, de l'Albanie et de la Yougoslavie. Et effectivement, c'est le dernier réduit. Le roi, la reine se déplace pour admirer la victoire finale. C'est là aussi qu'on a débarqué du napalm. Et les seuls combattants qui s'en tirent sont en fait ceux qui arrivent à passer la frontière pour se retrouver en Albanie ou en Yougoslavie.
Des gens qui ne reviendront pour beaucoup d'entre eux jamais dans leur pays. Un bilan extrêmement lourd également, même si difficile de le dire. Si on calcule le total d'ailleurs des pertes de la Grèce pendant du fait de la guerre civile, de l'occupation allemande de la Première Guerre mondiale, on arrive à peu près 600 000, plus de 600 000 personnes. Je dis ça parce que ce matin j'avais évoqué dans le 6-7 le fait qu'il y a eu 600 000 morts du fait de la guerre civile. Non, c'est l'ensemble des morts de l'ensemble des guerres, contre l'Allemagne et guerre civile. Mais c'est énorme et ça a laissé des traces considérables, surtout Joël Dalleck, pendant des années, on le comprend.
Ça laisse des traces considérables parce que, en fait, le gouvernement des vainqueurs a toute une législation d'exception qui est en place, qui restera en place jusqu'à la chute des colonels en 1974, donc ça fait quand même très longtemps, ce qui veut dire que les 100 000 personnes à peu près qui ont quitté à la fin de la guerre civile la Grèce en toute hâte pour aller se réfugier dans les pays de l'Est ne peuvent plus rentrer chez elles pendant tout ce temps-là, que en fait toutes les familles qui sont dont un des membres a peut-être participé à la guerre civile se voit interdire toute une série de choses, le travail, les patentes, les autorisations, l'université, donc ça alimente une émigration énorme. Et en fait, ce n'est qu'à la chute des colonels en 74 que le Parti communiste est légalement autorisé, que certains résistants, ex-résistants commencent à pouvoir rentrer de l'Est, et c'est surtout à la fin de 81, quand Andreas, le fils de Georges Papandréou, devient Premier ministre, que cette fois-ci, la résistance est légalement reconnue, car jusque-là, la Grèce est le seul pays d'Europe où il faut cacher qu'on a fait de la résistance, et où ceux qui sont encore survivants à l'Est ont le droit de rentrer.
Aujourd'hui encore, ça marque c'est dans les mémoires des Grecs encore aujourd'hui?
Ça marque. C'est toujours un sujet dont les gens ont beaucoup, beaucoup de mal à parler. Ils ont tellement appris qu'il fallait se taire là-dessus pendant 30 ans que la parole revient difficilement.
Ben, écoutez, grâce à vous, en tout cas, on en sait un peu plus. Et grâce à votre livre aussi, La Grèce depuis 1940, publié chez L'Harmattan et signé par Joël Dalleck, qui était mon invité. Aujourd'hui, vous avez pu entendre une archive pâtée de 1948, issue du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Bézikian, Olivier Riotor, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et à notre réalisatrice Anne Kobilac.